Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Par ici les sorties, nouvelle édition Chartraine. Aujourd'hui, je vous emmène au prieuré Saint-Vincent, rue Porte Cendreuse, où une exposition de l'artiste Eliane Larusse est actuellement visible, et ce, durant plusieurs semaines. C'est une exposition qui, personnellement, m'a beaucoup touché. Et j'ai eu grand plaisir à interviewer l'auteur de cette expo, la peintre Eliane Larusse.
Eh bien, j'ai le grand plaisir d'être aux côtés d'Eliane Larusse, devant la petite galerie de la rue Porte Cendreuse, où son travail est exposé. Et il y a des œuvres qui sont parfois difficiles d'accès, des œuvres où on met du temps à les apprécier, à les aimer. Eh bien, les toiles d'Eliane Larusse, il faut aller les voir, vous serez conquis tout de suite. Si en tout cas vous avez gardé un lien avec votre enfance, parce que moi, j'ai vu vos tableaux et j'ai eu le sentiment que le regard que vous portiez sur la réalité, c'est pas le regard d'un enfant, mais c'est le regard de quelqu'un qui a conservé peut-être un esprit d'enfance.
J'espère qu'il est là et qu'on va le ressentir dès qu'on va voir les premières peintures, avec une émotion particulière. En fait, mon travail est lié à l'enfance, au singulier de l'art, c'est-à-dire à une approche assez primitive de la peinture, à travers les arts populaires, l'art brut. Et en fait, c'est une émotion primitive que j'ai envie de traduire au départ, proche de l'enfance.
Est-ce qu'on peut revenir au tout début? Comment vous êtes devenu artiste? Est-ce que d'abord, vous, enfant, vous dessiniez, vous peigniez, vous modeliez?
Ben, je n'ai pas arrêté depuis l'âge de mon enfance, je crois. Depuis l'âge de 5-6 ans, sans doute. Et comment dire ça? Je n'ai pas cherché à être artiste. Je crois que c'était vraiment mon destin. Donc, je l'ai suivi malgré toutes les aléas, y compris la famille, le père, qui était très inquiet à l'idée que je veuille faire les beaux-arts à l'âge de 15 ans et qui m'a quand même obligée à passer mon bac. Il a eu raison, hein, il a eu raison. Mais dès l'âge de 15 ans, je voulais entrer aux beaux-arts. Donc, ça me poursuit depuis toujours.
Vous êtes né dans un très joli département, qui est le mien aussi, c'est les Deux-Sèvres. Vous êtes né au Pin. Est-ce que ça comptait pour vous l'environnement naturel, celui de votre enfance?
Écoutez, je pense que ce que j'ai trouvé dans cette petite campagne, c'est la fraîcheur, l'authenticité et un sentiment de vérité à travers les personnes que j'ai connues étant enfant. Donc je crois que ça je n'avais aucun... Comment dire, la famille, il n'y avait pas d'artiste. Je crois qu'il y avait un seul tableau dans la maison chez mes parents qui était un paysage très traditionnel. Et mon père a eu beaucoup de mal à accepter le chemin que j'ai suivi. Ce qui l'a beaucoup perturbé, ma mère aussi d'ailleurs. Et quand on leur posait des questions sur mon travail, c'est spécial. C'est tout ce que j'ai obtenu de mes parents. Et ils étaient même un peu inquiets pour moi, enfin disons depuis mon enfance. Je crois que j'ai eu un chemin quand même assez particulier puisque je suis née avec une luxation congénitale. Il y a eu beaucoup de problèmes au niveau physique. Alors ça m'a peut-être donné une sensibilité un peu exacerbée, on va dire ça.
Je trouve qu'il y a une... Votre interprétation du monde, il y a un fond de tendresse qui serre le cœur.
Oui, alors le mot tendresse, vous voyez, on le pratique pas beaucoup dans l'art. Oui, non, mais je le revendique. C'est une peinture très affective qui, en effet, j'espère, contient une notion de tendresse en dehors de tout ce qu'on peut y trouver par ailleurs. Et je la revendique.
Revenons aux Beaux-Arts. Donc vous êtes entré aux Beaux-Arts où alors?
Alors, je suis entrée après le baccalauréat aux Beaux-Arts de Tours, où j'ai passé le CAFAS dans les années 64, 64. C'était donc un diplôme qui me permettait d'entrer aux Beaux-Arts de Paris par la suite. Bon, on était dans les années 60, une femme qui fait les Beaux-Arts, il n'y en avait pas tellement. En fait, c'était surtout des garçons que je côtoyais. Et la plupart, en fait, se sont dirigés après vers la décoration, Et je crois qu'il n'y a qu'une seule autre femme qui a eu un parcours vraiment professionnel. C'est son nom d'artiste, c'est Champion Métadier, qui elle est très art contemporain. Donc qui ne vise pas l'affect, mais l'intellect. Alors moi je dis pas que mon intellect est nul, hein, mais c'est d'abord l'affect que j'aime traduire.
Enfin, pour ce qui me concerne, pour moi, c'est de l'art contemporain. Parce qu'évidemment,
c'est un art actuel, on va dire. C'est un art actuel. Alors, dans l'art contemporain, on y met par moment une notion de... Comment dire, d'hermétisme, qui n'est pas du tout mon cas. Mais c'est un art actuel.
Vous avez fait votre apprentissage finalement dans les années 60, où il y avait de grandes révolutions aussi dans l'art, et il y a l'art conceptuel et Tesson plein, puis il y a eu une politisation de l'art dans les années 60-70. Comment vous avez vécu, traversé cette époque?
Mais justement, moi j'étais, comment dire, moi ce qui m'intéressait à l'époque c'était le mouvement Cobra, oui, qui est donc un mouvement qui part, on a les mêmes sources, dessin d'enfant, art primitif. Bon, moi j'ai après découvert l'art brut, ce qui s'est ajouté à tout ça. Mais quand je suis arrivée à Paris, et c'était donc la figuration narrative, donc des peintres très très froids, avec un discours politique que je n'avais absolument pas. Et moi j'étais plutôt en réaction contre ces peintres-là. Donc dans les salons, il y avait les pisses chauds et les pisses froids. Alors moi je fais partie des pisses chauds. C'est comme ça qu'on s'appelait à l'époque.
Est-ce que cette manière qui est la vôtre, elle était rapidement conquise finalement, ou est-ce que vous êtes passé par plusieurs périodes?
Oui, ça n'a pas été... Vous savez, quand on a 20 ans dans les années 60, moi je me donnais au moins 10 ans pour trouver mon chemin. Donc aux Beaux-Arts, je faisais une peinture figurative proche du mouvement Cobra. Et après, il y a eu le grand choc avec l'art brut. J'ai découvert la collection de Jean Dubuffet. Et j'ai découvert, surtout à Paris, une galerie qui s'appelait l'Atelier Jacob, dont le directeur était Alain Bourbonnais. Alors, je savais qu'il y avait quelque chose de particulier dans cet art qui m'atteignait au plus profond et que je n'avais pas appris aux Beaux-Arts. Donc, je me suis dit, là, il y a un chemin particulier qui est devant moi et que je sens profondément, donc je vais aller vers ce chemin. Je me suis arrêtée de peindre pendant 3 ans pour trouver un vocabulaire de forme moins traditionnel que ce que j'avais appris aux Beaux-Arts. Et Alain Bourbonnais, quand il est arrivé dans mon atelier au début, me dit, écoute Eliane, tu ne regardes plus ce que tu as fait aux Beaux-Arts, tu redémarres à zéro. Donc c'est pour ça que je dis, je me suis arrêtée pendant 3 ans pour chercher un chemin plus singulier.
Et vous l'avez cherché dans le dessin ou dans... Non,
dans le dessin.
Dans le dessin.
Oui, c'est le dessin. Il fallait que je me trouve un vocabulaire de forme. Alors bien entendu, j'étais prof de dessin à l'époque. J'étais en contact permanent avec des enfants. Et je pense que ça m'a aidée dans ma recherche picturale sur un terrain... Bon, proche de l'enfance et des singuliers de l'art et on peut dire pour l'art brut des malades mentaux.
Oui.
Enfin, comment dire, les malades mentaux ont un univers très particulier, bouleversant, qui m'a fait tout repenser. Donc c'est bon, si vous mélangez enfance, enfant, art brut, ça donne. Ça donne à ce que je suis aujourd'hui.
Vous avez parlé des Jean Dubuffet, qui est finalement la grande figure de l'art brut, mais il y en a d'autres. Hein. Moi, je pense souvent à Gaston Chessac, qui est un peu l'éternel oublié.
C'est ma famille.
Oui. Vous avez... On va laisser passer la moto. Vous avez correspondu avec...
Alors, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai découvert l'art brut à la télévision. Je venais d'être opérée, je ne pouvais plus bouger, et je regardais des documentaires, et je suis tombée sur la collection d'art brut de Dubuffet. Et quand j'ai trouvé ma première galerie, qui était l'Œil de Bœuf à Paris, qui était la seule à pouvoir proposer ce genre de figuration, elle m'a tout de suite parlé de Gaston Chessac, que je ne connaissais pas. Et là, ça a commencé à m'angoisser en me disant, mais on va croire que je le copie. Mais en plus, j'apprends qu'il était de Vendée. Hein. Bon, mais je ne le connaissais pas du tout. Donc après, j'ai découvert son œuvre, j'ai écrit à Jean Dubuffet en lui demandant qu'est-ce que vous pensez de mon travail, est-ce qu'il est trop proche de celui de chez Sac, est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue. Et là, il me dit continuez, vous avez votre univers à vous qui me plaît beaucoup, qui est plein d'émotions. Et là, j'ai continué. Et puis ça s'est bien passé. Votre... Oui, quand même, on me colle toujours chez Sac et Dubuffet. Hein. Ouais. Et je me dis, de toute façon, c'est cette famille de peintres qui ont regardé l'art brut et le dessin d'enfant, les arts primitifs, et à partir du moment où on a les mêmes sources, on se retrouve un peu dans la même figuration.
Enfin, ça ne ressemble pas à Dubuffet, ce que vous faites. Il faut que les gens qui nous écoutent sachent qu'ils vont voir, comme vous le dites, c'est un œil singulier, une patte singulière qui est la vôtre et qui, je trouve...
On reconnaît mon travail. On sait que c'est du Larousse, pas du Dubuffet, pas du Chessac. Donc je pense que j'ai quand même trouvé une identité depuis les années 75 à peu près. Et je sais que c'est le principal chez l'artiste, c'est l'identité, ne pas nous confondre avec quelqu'un d'autre. Donc je pense que ça, j'y suis quand même arrivée. Mais c'est vrai que c'est une étiquette dont j'ai eu du mal à me débarrasser. Et on mettait dans l'art brut, bien entendu, alors que j'ai fait les beaux-arts. Donc à chaque fois, je rectifiais le tir. Non, je ne suis pas dans l'art brut, mais je m'intéresse à l'art brut. Bon, voilà. C'était un peu compliqué au début.
Et comment, parce qu'évidemment la singularité de votre peinture, c'est aussi, je le suppose, la singularité de votre rapport au monde. Comment vous vivez en tant que peintre? Vous vous levez le matin, vous commencez à travailler. Comment ça se passe une journée d'Eliane Larousse?
Une journée d'Eliane Larousse, c'est... Je travaille d'abord à la lumière du jour. En général, le matin, je suis vaseuse, je range ma maison, et l'après-midi, alors là, il y a une discipline très stricte. C'est-à-dire qu'à partir de 14h, bon, j'y vais parce que j'ai besoin de cette peinture, bien entendu, pour m'exprimer. Et là, je suis en forme jusqu'à à peu près 18h, 19h. Donc quand j'ai travaillé 4-5 heures, ça va, je suis contente. Bon, il y a des jours où je n'arrive pas à travailler. Et il y a des jours où je ne travaille qu'une demi-heure. Et chaque jour est différent.
En tout cas, je vous sens heureuse par l'art.
À la fois, c'est un immense plaisir et une angoisse fondamentale. Car chaque jour... C'est est-ce que je vais faire mieux que la veille ou est-ce que je vais faire aussi bien? Et combien de temps ça va durer, cette histoire? Est-ce que j'aurai toujours l'inspiration? Est-ce que j'aurai toujours la force physique d'aller jusqu'au bout de cette aventure? Car par moments, je suis devant une peinture de 2 mètres sur 2 et c'est très fatigant. Donc le physique, c'est ce qui m'inquiète un peu en ce moment, car je vous cache pas que jusqu'à 70 ans, j'étais à peu près en forme. Là, je commence à être fatiguée. Mais je me dis qu'aller jusqu'au bout, même avec des petits formats. Paul Klee a fait toute une carrière avec des petits formats. Alors, je terminerai peut-être par des petits formats.
Pourquoi des grands formats, alors, en fait?
Les grands formats, c'est... Comment dire? Ça a été une nécessité impérieuse, le grand format. Car on ne peut pas dire la même chose. On est emporté déjà par le geste, beaucoup plus. Et on dit autre chose, tout simplement. Et en fait, pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir des choses différentes à dire. Donc le grand format me permet d'aller ailleurs. Le petit format, c'est autre chose. La sculpture, c'est encore autre chose. Et à chaque fois, il y a un renouvellement qui se produit. Et je pense que le problème de l'artiste, c'est quand même devenir l'artisan de son propre travail. Et en changeant de format, en changeant de support, et j'irais en regardant la rue tout simplement, on a la vie qui est là et qui nous apporte tout ce qu'il faut d'émotion.
Je vous demandais quelles étaient vos sources d'inspiration, mais moi effectivement j'ai l'impression que ce sont des choses vues, un amour de ce que vous pouvez voir effectivement dans la rue. Ou est-ce qu'il y a aussi des choses qui se rapportent à votre passé, à votre enfance?
Écoutez, C'est une question difficile. L'inspiration d'un artiste, alors moi je pense que c'est quand même l'enfance qui me porte le plus, la nostalgie de l'enfance. Et c'est cet enfant qui en fait au départ, qui nous amène de la poésie, de la liberté, de la spontanéité, de la tendresse. Et j'ai besoin de tout ça pour travailler. Donc je le trouve avec mes petits-enfants. Et je l'ai trouvé avec tous les enfants que j'ai pu côtoyer et certains adultes qui ont gardé l'esprit, en effet, de cette naïveté, de cette spontanéité. Le mot naïf est dangereux. J'irais presque un esprit d'innocence par moment, c'est-à-dire la recherche du paradis perdu. Hein. Le paradis perdu, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu vivre d'insouciance, de poésie, il faut le retrouver. Donc on le retrouve en vivant, tout simplement. Et en regardant les autres et en s'imprégnant d'émotions de toutes sortes. Dans la rue, il y a toutes les émotions. Et dans l'atelier, on ne fait que les... Comment vous dire ? Je pense à une phrase que j'ai écrite. L'artiste est en fait un réceptacle d'émotions qu'il métamorphose pour en faire une œuvre d'art. Bon, et cette émotion, ces émotions, c'est en vivant qu'on les a. En découvrant les œuvres des autres artistes, bien sûr. Mais n'importe où dans la rue, l'art populaire, il est dans la rue. Et l'émotion, elle est dans la vie. Donc, je prends l'émotion où elle se trouve. Et j'essaie d'en faire autre chose.
Il y a aussi des bêtes. Oui. Vous avez un rapport particulier avec Chloé ? Oui, tout à fait.
Alors, l'enfant et l'animal. Bon, j'aime beaucoup les animaux, ça je pense qu'on peut le voir. Il y a beaucoup de chats, il y a des chiens.
Qui sont interprétés vraiment, c'est oui, votre regard. Hein.
Oui, des chats et des chiens un peu particuliers qui peuvent en effet. Alors on me dit c'est un chat ou c'est un chien ? Je dis en fait j'en sais pas grand chose, c'est un chat-chien ou un chien-chat. Et en fait, c'est l'animal qui est porteur de tendresse pour moi. L'animal, c'est la tendresse incarnée. Donc, et ça amène un petit élément, ça complète l'humain. Les deux sont pour moi étroitement liés. Et je pense que, bon, on en parle souvent de la souffrance de l'animal, mais je pense qu'il faut y penser un peu plus.
Il y a des chats dans votre atelier ?
Des chats, j'en ai eu beaucoup, mais je n'en ai plus. Mais j'en ai eu plusieurs, oui. Et des cochons d'Inde, et des tortues, et des oiseaux, des... Bon, je pense que pour un enfant, c'est bien d'avoir des animaux. Je n'ai eu qu'un seul fils, donc je voulais qu'il y ait des animaux pour compléter son univers de tendresse.
Est-ce qu'on peut parler des couleurs ? J'aime beaucoup vos couleurs parce que c'est même la première chose qu'on voit, qu'on découvre. Ce sont des couleurs chaudes, ce sont...
Oui, la couleur, bon, vous savez, ça me possède depuis toujours, la couleur. Alors, bien entendu, chaque peinture, on essaie malgré tout d'apporter à la palette un petit... Alors, par moments, je vais dans des couleurs beaucoup plus sobres. Il y en a quelques peintures ici, mais j'ai eu une période beaucoup plus sobre où je faisais beaucoup de peintures claires, assez blanc cassé, gris. Et là, maintenant, je suis dans une période très colorée. Donc ça va, ça vient, j'ai besoin des deux. Par moments, je me dis, il me faudrait retrouver une certaine sobriété. Donc je me calme, et puis la couleur réapparaît.
Vous êtes emportée finalement.
Je pense que quand même la couleur, c'est fondamental dans mon travail. Donc j'aime beaucoup la couleur, bien sûr.
Est-ce que ça prend du temps pour devenir libre en art ? Est-ce qu'on est obligé de combattre contre soi-même, contre... Comment ça se passe ?
C'est la chose la plus difficile. Et je pense qu'on peut être libre de plusieurs façons. On peut être libre dans le dessin, ce qui est mon cas, ou dans le geste, ce qui n'est pas mon cas. Je ne suis pas un peintre gestuel. Mais cette liberté est très difficile à acquérir. Il faut se débarrasser de beaucoup de choses. Et je dirais que je crois que c'est la chose la plus difficile.
Est-ce qu'il y a un travail intérieur à fournir ? Quelle est la nature de ce travail ? Est-ce que vous, par exemple, vous lisez ? Qu'est-ce qui vous nourrit ? Est-ce qu'il y a d'autres disciplines, la poésie ou autre chose qui vous nourrissent ?
Bien sûr. L'art se nourrit de tout. Oui. Aussi bien de la poésie que tout ce qui est culturel, la littérature, le cinéma, je pense qu'on se nourrit absolument de tout, de la vie, mais j'aime beaucoup le cinéma. J'ai fait d'ailleurs plusieurs hommages à des cinéastes par les titres que j'ai donnés à ma peinture. Bon, il y en a une qui n'est pas là, ça s'appelle Au revoir les enfants. C'était le film de Louis Malle que j'ai beaucoup aimé, et j'ai fait une peinture en hommage à Louis Malle. Bon, après, rien n'est réfléchi. Au départ, c'est une émotion qui surgit à partir de quelque chose, et la réflexion picturale vient après pour construire l'œuvre. Car si l'œuvre n'est pas construite, elle ne laisse pas passer l'émotion. C'est-à-dire qu'il faut à la fois une spontanéité et une maîtrise plastique. Donc ma maîtrise plastique, je l'ai acquise aux Beaux-Arts et par toutes les années de travail que j'ai eues. Donc ça, je sais maintenant que je sais construire une œuvre. Mais je pense que si... Alors par moment, par contre, je me dis, bon, là j'ai trop réfléchi sur cette œuvre. Du coup, on perd sa liberté quand on réfléchit trop. Donc c'est une bagarre continuelle entre réflexion et démolition, c'est-à-dire construction-déconstruction. Et Picasso a été le premier à nous montrer l'exemple. Et c'est pour ça qu'il est fabuleusement libre. Donc oser construire, oser détruire, reconstruire, trouver autre chose, c'est un jeu permanent. Un jeu permanent qui fatigue beaucoup d'ailleurs, vous savez. C'est pas de tout repos de faire une œuvre. Et par moments, on la rate. Hein. On cache pas. Parce qu'il n'y a pas assez de force, parce qu'on sent que c'est... Alors on met l'œuvre de côté, on la reprend 3 mois après. Quelquefois on la récupère, quelquefois on la récupère pas. Donc il y a une question d'énergie qui est fondamentale. Et cette énergie, si on l'a au bon moment, on peut redonner quelque chose de fort. Si on ne l'a pas, on fait du mou, du décoratif, du mièvre. Et les femmes, il faut qu'on s'en méfie de tout ça, parce qu'on a tendance à nous dire « Oh, c'est bien gentil ce que vous faites ». Mais en fait, dans mon cas, on ne me l'a pas trop dit quand même. Je pense que j'ai dépassé le gentil tout en restant... je n'aime pas le tragique, j'aime pas traduire le tragique dans la peinture, je ne suis pas une expressionniste. Il m'est arrivé de faire des choses plus graves. Par moments, j'ai ressenti ce besoin-là, mais il y a autre chose qui réapparaît tout de suite.
Alors, est-ce que vous arrivez à le qualifier, cette autre chose? C'est quoi? C'est une forme de confiance par rapport au monde, une forme peut-être une forme de foi ou quelque chose qui s'apparente à ça?
Oui, peut-être une forme d'espoir quand même. De ne pas être trop dans le tragique, dans la noirceur. Je crois que j'ai besoin de lumière malgré tout en faisant ma peinture. Donc je ne me vois pas faire des choses trop... Comment dire, trop déprimante, enfin trop grave.
Je crois que vous y parvenez, parce que cette peinture, je ne la connais pas encore beaucoup, mais au premier coup d'œil, on ne peut pas se tromper. Quand on est ému au premier coup d'œil, c'est forcément que c'est bien. Et il y a une dimension, moi je trouve, c'est une peinture qui fait du bien, une peinture qui nous guérit de la laideur de l'histoire.
Ben, j'espère qu'elle fait du bien, parce que c'est quand même mon but de donner à voir. Comment dire, j'aime bien qu'on me dise « Ah, vous m'avez fait rêver. Ah, vous m'avez emmené ailleurs. » Donc, il y a une nécessité aussi de sortir d'une réalité pesante, trop matérialiste. Et là, c'est l'aspect poétique que je recherche dans ces cas-là. Et là, je pense que ça atteint n'importe qui, même ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas de culture picturale, peuvent le ressentir. J'ai eu plusieurs expériences comme ça avec des gens très simples. Je me souviens, c'était Angoulême. Et arrive un bonhomme, on va dire, quelqu'un d'au moins 60 ans, plutôt pâteau, qui me dit au départ, vous savez, j'y connais rien. Je lui dis, écoutez, allez voir, puis revenez me voir après, puis peut-être que vous avez quelque chose à me dire. Et il va voir l'exposition. Pourtant, il me dit, ben, je crois que j'ai compris ce que vous vouliez me dire. J'ai compris. Alors, qu'est-ce qu'il a compris? Mais je crois qu'il a compris que je voulais faire passer de l'émotion et que c'était une émotion quand même positive qui fait du bien. Voilà. Donc j'espère qu'il a compris ça.
Je vous pose une dernière question. Je vais faire mon Jacques Chancel et Dieu dans tout ça.
Et Dieu dans tout ça. Alors la notion du divin, on va dire la notion du divin, parce que j'ai perdu la foi, comme beaucoup, mais il me reste une notion de divin, parce que j'ai été éduquée quand même dans le catholicisme. Et ce que ça m'a apporté, quand même, pour dire un petit mot de ce catholicisme qui m'a à la fois gâché ma donne d'adolescence, mais qui m'a donné une enfance émerveillée, c'était à l'église, quand il y avait les chants religieux, et je me sentais transportée, parce qu'il n'y avait pas de musique classique à la maison, hein, et je me sentais transportée, et en regardant certaines sculptures romanes d'anges, de têtes, je me sentais proche de ça. Donc c'est une notion de divin que je ressens. Maintenant, Dieu, peut-être qu'il est là, pourquoi pas. Ça fait du bien d'y penser. Maintenant, je trouve que... Bon, je suis quand même très sceptique sur la fin de tout ça. Mais il faut être heureux dans sa vie. Et déjà, je pense qu'on atteint un petit peu cette notion de divin quand on donne beaucoup aux autres et que les autres le ressentent.
C'est le cas. C'est le cas de votre peinture, et moi j'engage tous les chartrains, les gens des alentours à venir vous voir, c'est rue Porte Cendreuse, prieuré Saint-Vincent, et l'étoile d'Eliane Larus. Eliane, un grand merci pour ce moment partagé. Je vais vous rendre à vos invités, je pense qu'ils s'impatientent peut-être. Merci beaucoup.
Attendez, moi je vous remercie pour les questions que vous m'avez posées, car c'est pas toujours évident de répondre à une interview, et là vous avez tapé dans le mille, comme on dit.
Merci beaucoup.
Mes yeux sont passés les lumières qui nous guidaient. Peut-être étions-nous trop fiers pour baisser la tête. Le monde a tourné, le monde a tourné sans nous attendre. Ténèbres sont partout, couvertes de cendres. Mais souviens-toi que l'on s'aimait, que l'on s'aimait quand même. Nous étions si jeunes, si fiers. Comment le dire? Nous avons perdu la lune, l'étoile. Qui caressait nos paupières. Tout m'est égal.